appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Un accord minié entre la RDC et les États-Unis est en cours de discussion. Une fois signé, cet accord va attirer les investissements américains dans le secteur minier en contrepartie des garanties sécuritaires. Et dans le cadre de ce futur accord, les entreprises américaines vont investir dans le secteur minier congolais et développer des infrastructures indispensables au développement de la RDC, telles que le route, les chemins de fer et l'énergie. Pour le gouvernement américain, ce futur accord minier sera un partenariat gagnant-gagnant dans le respect des lois nationales et internationales, notamment en matière de travail, d'environnement et aussi de la lutte contre la corruption. Cependant, au sein de la société congolaise, certaines voix s'élèvent pour dénoncer ces futurs accords qui seraient ni plus ni moins un bradage de ressources minières de la RDC. D'autres Congolais, en revanche, saluent ces discussions en vue d'un accord minier entre la RDC et les États-Unis, mais ils s'interrogent sur la particularité de cet accord lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle, la Chine est le premier partenaire commercial de la RDC et contrôle presque tous les secteurs miniers de la RDC. Toutefois, en dépit de craintes et divergences de vues, d'aucuns estiment que le retour à la paix dans l'Est de la RDC est plus que jamais une impérieuse nécessité après 3 décennies d'insécurité dans ces parties du pays. Mais il est aussi indispensable que cet accord autour des minerais dits stratégiques soit réellement au bénéfice de la population congolaise. Que pensez-vous de ce futur accord minier entre la RDC et les États-Unis? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir également de logo WhatsApp de Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 971-680-79. Debs Vita est à la mise en nom de ce magazine et Gloria Lutula sur la réalisation et la coordination. Paul Badianyama est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout à tous, excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Paroles aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur le plateforme digitale de Radio Capi, à savoir YouTube, X et Facebook. Et merci également d'avoir été nombreux à réagir par rapport à ces sujets sur ce futur accord minier. C'est la signature d'un accord minier entre les USA et la RDC qui est en cours de discussion. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Lems Kamoania. Lems Kamoania, bonjour.
Bonjour Marcel.
Vous êtes expert en économie et finance. Avec vous, on va débattre et avec les auditeurs par rapport à cette question qui suscite quand même des craintes au sein de la société congolaise par rapport à ces futurs accords miniers qui devaient être signés entre la RDC et les USA. Et cet accord, en tout cas pour l'instant, est en cours de discussion. Et une fois signé, cet accord va attirer les investissements américains dans les secteurs miniers en contrepartie des garanties sécuritaires. Mais il se passe que beaucoup de Congolais ont des craintes par rapport à cet accord, c'est-à-dire des craintes sur le bénéfice réel qu'elle peut tirer la RDC par rapport à cet accord minier. Et lorsqu'on sait que actuellement il y a la Chine qui contrôle presque tous les secteurs miniers de la RDC, qui est le premier partenaire commercial de la RDC. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'expert en économie et finance, il y a lieu de dissiper ces craintes ou c'est des craintes vraiment réelles?
Oui, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur cette question sur votre plateau. Je pense que la première des choses, nous devons arriver à examiner, peut-être à localiser les points sur lesquels la population redoute, bon, certains, pas tout le monde, oui. Certains redoutent que cet accord minier puisse arriver à nous donner les bénéfices escomptés, notamment au niveau de la population. Moi, je peux localiser ça à 4 niveaux différents. Oui. Le premier niveau, c'est qu'on s'est dit, quand il y a l'accord minier, nous, facilement, nous allons assurer notre part du contrat. C'est-à-dire, la RDC va rendre l'accès aux gisements miniers, notamment pour les minerais stratégiques et rares, aux entreprises américaines. Donc, nous allons assurer notre part du contrat. Mais, de l'autre côté, est-ce que nous aurons, premièrement, les investissements qui sont attendus. Parce qu'on parle de 500 milliards de dollars sur 15 ans. Les gens se disent, est-ce que ce n'est pas du bluff? Est-ce que ce montant viendra effectivement pour développer les pays? Ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté qui alimente la crainte de la population, le deuxième point, c'est au niveau de ces garanties sécuritaires. Est-ce que le gouvernement américain va mettre en place tous les dispositifs pour sceller définitivement la paix dans l'Est, ou bien la sécurité va seulement être apportée pour sécuriser les installations minières et peut-être les couloirs d'évacuation de ces produits miniers qui vont sortir? Ça, c'est encore un deuxième niveau où la population se rend compte qu'il ne faudrait pas qu'on soit dupé. Vous pensez qu'il y aura la sécurité de l'ensemble, mais on va juste arriver à sécuriser les sites miniers et les couloirs d'évacuation des produits miniers. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est préoccupant, c'est cette question de le développement des chaînes de valeur et la chaîne commerciale d'approvisionnement. Parce que à ce niveau-là, quand les gens se disent, ils entendent déjà dans les préaccords que ces entreprises, pour arriver à raffiner nos produits, à les exporter, et nos produits vont sortir également pour entrer au Rwanda et que ça pourrait être exporté à l'échelle internationale sous l'étiquette, sous les labels rwandais, les gens se disent, mais ça c'est du bradage. Pourquoi ces entreprises américaines ou pourquoi les États-Unis, ces entreprises ne peuvent pas installer ces différentes entreprises de transformation, de concentration de ces produits miniers pour que l'exportation se fasse au nom et que ces minerais sortent sous le label de la RDC plutôt que sous le label du Rwanda. Et ça alimente la crainte. Les gens se disent non, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire rouler par rapport à ça. Bon, et enfin, le quatrième point le plus important, c'est que les gens ont un peu encore, c'est encore frais dans les mémoires, même dernièrement, on a dit qu'on a revu l'ancien accord entre la RDC et la Chine, presque l'accord similaire. Et on s'est rendu compte que depuis que cet accord a été signé, on n'a pas vu les retombées de cet accord. Est-ce que ça ne sera pas encore le cas où on s'est dit, bon, on va signer l'accord, après on ne verra plus rien dans l'avenir? Je crois que c'est à ces quatre niveaux où il faut arriver à dissiper peut-être les doutes de ceux-là qui sont en train d'hésiter, de penser que cet accord sera réellement bénéfique à la RDC et à la population congolaise. Pour le reste, moi quand je regarde ces entreprises qui viendront, bon, elles vont respecter les codes miniers, elles vont exploiter, elles auront l'exploitation va se faire conformément. Nous avons déjà une loi minière qui est en place et vous venez de les souligner. Ils ont dit qu'ils vont respecter la réglementation nationale et internationale en matière d'exploitation minière d'environnement. Ça, ce n'est pas le côté qui pose problème. Mais comment nous pouvons rassurer la population et ceux qui doutent que sur ces quatre points, la RDC ne va pas se faire rouler? Je crois que c'est autour de ces points-là que nous pouvons peut-être arriver à cogiter et arriver peut-être à donner des recommandations, des suggestions pour apaiser les doutes et les inquiétudes des uns et des autres.
Ah, vous avez parlé du développement des chaînes de valeur. Si vous voulez bien expliquer quand on parle des chaînes de valeur, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le secteur minier?
Oui, lorsqu'on parle des chaînes de valeur, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez exploiter les minerais sous forme brute. Par exemple, vous sortez la malachite, vous sortez les minerais de terre. Mais ce n'est pas sous cette forme-là qu'on doit les exporter, qu'on doit les envoyer. Bon, à certains niveaux, il y a des gens qui exploitent, il y a des gens qui installent des comptoirs d'achat de ces minerais et il y a des gens qui installent peut-être les entités de traitement pour faire que ces minerais ne soient pas exportés sous forme brute, qu'ils soient peut-être concentrés ou travaillés à un certain niveau pour qu'on lui donne un peu de la valeur ajoutée. Parce que si vous exportez les minerais bruts, vous y gagnez pas grand-chose. Mais si vous sortez un produit qui est élaboré, qui est passé par une première phase ou un deuxième processus de transformation, cela donne de la valeur ajoutée et ça accroît la valeur des exportations. Maintenant, cette chaîne qui est là, quand on quitte de l'extraction minière vers la commercialisation et la transformation à travers certaines entités de traitement ou à travers ces différents intermédiaires qui se mettent dans la chaîne commerciale, vous donnez de la valeur ajoutée aux produits que vous exportez. Et ça a toujours été le combat, pas de la RDC, mais de toute l'Afrique, pour dire, est-ce qu'on doit continuer à exporter les produits bruts ou il faut faire une certaine transformation. Alors, dans cet accord, selon ce qui est dit, on aimerait que cette chaîne commerciale, c'est-à-dire vous sortez les produits bruts et ces produits peuvent être acheminés de l'autre côté de la frontière, pour qu'à ce niveau-là, peut-être qu'on leur donne une valeur ajoutée, peut-être qu'on leur fasse une certaine transformation, et on va maintenant les exporter avec une valeur ajoutée qui est plus élevée dans l'autre pays que du côté de la RDC. Et c'est ça qui inquiète. Et ça, c'est vraiment des inquiétudes sérieuses. Pourquoi cette chaîne de valeur commerciale ne peut pas se développer à l'intérieur de la RDC? Donc
ça serait plus avantageux pour la RDC que ça se fasse.
On exporte des minerais qui ont une valeur ajoutée assez élevée, ce qui rapporterait plus au pays, et que ces minéraux sortent sous le label de la RDC plutôt que le label d'un autre pays.
Il y a ceux qui également se posent des questions, notamment pour ce qui est déjà, vous avez parlé de cet accord, de ces fameux contrats sino-congolais qui a été révisité. Et là, ceux qui se disent qu'il y a déjà la Chine qui contrôle presque tous les secteurs miniers ici en RDC. Les États-Unis veulent également arriver, si une fois que cet accord minier sera signé entre les USA et la RDC. Et là, les gens cherchent à comprendre comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut, ça sera maintenant concurrence sur le sol congolais de ces deux États, c'est-à-dire la Chine.
Non, là, il n'y a pas d'inquiétude. Notre secteur minier est déjà libéralisé. Okay. Et en RDC, nous trouvons les entreprises qui viennent de tous bords, du monde entier qui viennent exploiter. Mais la crainte qu'il faut avoir, c'est arriver à avoir la collision. Est-ce qu'aujourd'hui, avons-nous des concessions minières en propre au niveau du gouvernement qui seront mises à la disposition des entreprises américaines? On éviterait par exemple de dire on va déposséder les Chinois de certains de leurs gisements ou de leurs intérêts pour les donner aux Américains. Là, ça va créer une collision minière. Mais l'accès aux gisements miniers, est-ce que nous avons encore des gisements miniers en réserve? Est-ce qu'il y a l'État à travers ces entreprises va-t-il encore ouvrir des partenariats comme ça a été fait avec les cas des Chinois? Parce qu'avec les Chinois, c'était la Gécamines qui avait des concessions minières qu'elle exploitait et elle a pris certains gisements. Elle a dit ça, nous le localisons et nous allons le développer ensemble avec la Chine. Donc la Chine a des partenariats avec certaines entreprises publiques congolaises et la Chine a aussi certaines concessions minières qu'elle exploite en propre. Maintenant, on estime aujourd'hui que les Américains viennent. Déjà, ils étaient là. TFM, c'était les Américains avant qu'ils ne puissent revendre cette société et cette société aux Chinois. Alpha Mine, c'est une entreprise américaine qui est sur les territoires congolais. Ce n'est pas la première fois qu'on va avoir la présence des Américains dans les secteurs miniers congolais. Ils y sont. Certains sont partis, d'autres y sont aujourd'hui. Mais peut-être aujourd'hui, on va élargir cet accès en leur disant, bon, on vous donne peut-être un pan plus important, notamment de ces minéraux stratégiques dont vous avez besoin pour vos entreprises, notamment ceux qui sont au niveau de la Silicon Valley. Et ça devient juteux. Donc, la concurrence avec la Chine ne poserait pas de problème parce que, je dis, le code minier, il est libéralisé. Tout le monde peut accéder. Même vous pouvez, si vous avez les moyens, accéder à avoir un carré minier. Mais les dangers que nous évitons, c'est la collision pour qu'on n'aille pas arracher des concessions minières ou déposséder les Chinois de leurs minéraux, de leurs gisements. Et ça peut amener des problèmes.
Alors, avant d'ouvrir le standard, parce qu'il y a déjà deux auditeurs qui aimeraient réagir, je m'en vais d'abord lire cette réaction sur la page Facebook par nos auditeurs, puis vous allez réagir par rapport à cela. Et là, c'est une réaction où on nous écrit « La présence chinoise, notamment à travers les consortiums Sicomines, s'était consolidée grâce à un accord estimé à 3 milliards de dollars visant à échanger les minéraux contre infrastructures, routes, hôpitaux. Mais des années après, les constats est amers. Peu d'infrastructures visibles, d'importants soupçons de corruption et des déséquilibres dénoncés dans plusieurs rapports, poussant le président Tshisekedi d'y engager une révision du contrat. Alors que les discussions autour d'un accord liant minéraux contre sécurité avec les États-Unis se précisent, une partie de l'opinion congolaise exprime de fortes réserves. Beaucoup redoutent un bradage de ressources dans un cadre flou, sans garantie tangible de sécurité durable, en l'état de la promesse d'être tenue du contrat du siècle sino-congolais. Est-ce que vous pensez qu'il y a de corrections à porter par rapport au précédent contrat sino-congolais et ce qui pourra être fait avec les Américains?
Oui, effectivement, vous voyez, nous devons tirer des leçons et des apprentissages par rapport au contrat que nous avons conclu avec les Chinois. Parce que c'est des contrats, vous voyez, nous parlons de grands contrats, nous parlons de centaines de milliards de dollars. Et je ne pense pas que de tels contrats, en un mois, en deux mois, qu'on arrive à ficeler tous les contours de ces contrats. Par exemple, lorsque nous disons qu'ils viendront développer les pays, quelles sont les infrastructures qu'ils vont développer? Quel est le coût de ces infrastructures? Les 500 milliards, on les a évalués comment? Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes en situation stable, en situation de paix, où nous disons, nous appelons les Américains pour qu'ils viennent investir. Nous avons des urgences sécuritaires. Oui. C'est qu'il y a une certaine précipitation. Est-ce que dans cette précipitation, où nous voulons d'abord sécuriser la partie est du pays, est-ce qu'on ne va pas aller en oubliant l'essentiel, en disant « Ok, prenez ça et que nous allons réfléchir par la suite. » Et peut-être l'accord qu'on va signer globalement, il n'y a pas les annexes, il n'y a pas ces études, on ne définit pas quelles sont les infrastructures. Est-ce qu'on ne risque pas encore de nous retrouver là-dedans? C'est peut-être là les conseils qu'on peut donner. Il y a des accords de principe. On avait vu un premier accord de principe qui avait été fait. Mais ici, on peut se dire, ok, nous serons peut-être un accord sur les grands principes, mais il y aura des annexes qui feront partie du contrat. Peut-être qu'ils peuvent arriver d'ici 4-6 mois, le temps que les choses soient suffisamment approfondies et qu'on dise clairement à la population, dans ces deals que nous avons avec les Américains, voilà, il y a telles infrastructures, il y a ça qui sera fait, voilà les évaluations qui ont été faites, et voici le mécanisme qui est mis en place pour s'assurer que ces financements vont venir, ces financements vont servir à développer ces infrastructures, il y a des calendriers de réalisation, et qu'on a mis en place des mécanismes de contrôle et de surveillance pour que ces fonds puissent arriver à atteindre l'objectif pour lequel cela a été commis. Je crois que ça, c'est une partie qui est importante, mais aujourd'hui qu'on n'a pas. Oui. Et ça risque d'alimenter des doutes et nous risquons de signer un contrat dans l'inconnu en disant on attend 500 milliards sur 15 ans, combien la première année, combien la deuxième, ce qui viendra va financer quelles infrastructures, ça va être quoi? Bon, est-ce que ça sera à définir par la suite? C'est comme si nous donnons un peu un chèque en blanc, nous signons, nous nous lançons dans l'inconnu.
Voilà. On revient à vous, Lems Kamonia. Vous êtes expert en finance et économie. Avec vous, nous parlons de ces sujets sur le tract action pour la signature d'un accord minier entre les USA et la RDC. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, si vous voulez intervenir par rapport à ces sujets sur ces futurs accords entre les États-Unis et la RDC sur un accord minier qui est en cours de discussion. Si vous voulez intervenir, composez le 09-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Marie-Paul Awa qui nous appelle depuis Kisangani, également Christian Kassissi qui est à Kampala, Ouganda. Il se présente comme chercheur en droit. Voilà, on y va d'abord avec Marie-Paul Awa qui nous appelle depuis Kisangani. Marie-Paul, vous avez la parole.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kapi. Alors, en faisant l'analyse profonde de cet accord en gestation entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, alors, il nous revient de dire que nous sommes là dans un accord qu'on peut appeler, selon les normes de l'Organisation internationale du commerce, comme un troc, ce qui est prohibé, bien évidemment. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, c'est que la RDC ne s'est toujours pas tirée des leçons, parce que avec les accords sino-congolais, où on avait aussi bradé les matières premières, au motif qu'on devrait reconstruire les pays, on devrait reconstruire les routes, mais lorsque on a fait les bilans, on s'est rendu compte que ces accords-là n'ont pas produit quelque chose. Encore une fois, on revient dans les mêmes schémas, ce qui est lamentable. La troisième considération, c'est que il faudrait peut-être que nous puissions avoir en esprit, c'est que les États-Unis n'ont pas commencé à coopérer avec la RDC par ces accords. Et en cette matière-là, bien évidemment, on peut ici rappeler le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley, c'est un processus que les États-Unis avaient mis en place pour lutter contre le diamant des sangs. Et aussi, on peut aussi dire que les États-Unis coopèrent avec la RDC à travers la GOA. Dans la GOA, on peut se rendre compte que ces liens d'accord nous a conduit ou a conduit les pays dans quel résultat. Et la somme de cela, monsieur le journaliste, me pousse à dire que si et seulement si nous comptons sur la coopération en brandant les minéraux, nous n'allons pas trouver la solution. Voilà pourquoi, à mon sens, j'estime que la RDC doit d'abord, dans un premier lieu, s'engager dans le processus de la transformation de ces minéraux et aussi mettre en place un mécanisme de la traçabilité dans la chaîne de production des minéraux. Parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de contrebandes que nous pouvons constater de gauche à droite et avec les mêmes minéraux qui répond ou qui relève des systèmes que nous appelons, ce sont des minéraux qui sont épuisables et non renouvelables. Mais aussitôt que nous utilisons plus ou nous exerçons plus la pression sur ces minéraux à travers les accords, à travers bien évidemment l'exploitation, un jour nous allons nous réveiller, nous n'avons plus de minéraux. C'est ça le danger. Et aussi on doit se rendre compte que l'exploitation des minéraux, même si on ne le dit pas assez, c'est parmi des indicateurs de pollution. Lorsque les gens exploitent les minéraux, même quelle que soit une exploitation mécanisée ou une exploitation artisanale, mais ça exerce toujours des conséquences incommensurables sur la pollution. Mais c'est l'ensemble de tous ces éléments. Mais pour ça me dire qu'il y a vraiment le plein sur la place pour la RDC, c'est-à-dire la RDC a beaucoup de travail à faire pour que les minéraux puissent contribuer réellement à ce que nous cherchons. Mais les accords que nous signons, parce que les accords n'engagent que ceux qui les attendent, ces accords-là ne basculent pas réellement pour que nous puissions tirer des gains de cause. Et encore une fois, nos autorités ne savent pas tirer de bonnes leçons par rapport aux accords liés aux ressources naturelles.
Voilà pourquoi là, ces genres de missions avec, on vous accorde la parole, les Congolais, vous donner vos avis par rapport à ça. Et nous avons des experts qui peuvent également porter un éclairage. Donc pour vous, on retient. Vous pensez qu'il est temps pour la RDC de signer 10 accords qui seront vraiment au service de la nation, mais vous avez insisté. Il faudrait dans ces accords voir dans quelle mesure la transformation de ces minéraux se passe dans le pays et surtout vous avez également parlé de la traçabilité pour ce qui est de la chaîne de production et d'exploitation de ces minéraux. Merci Marie-Paul Awa d'Ava, PDP Kisangani. Christian Kasese, vous êtes à Kampala, en Ouganda. Vous avez la parole.
Oui, bonjour cher Marcel et mes salutations également à l'invité. Je voudrais aborder la thématique d'aujourd'hui dans un sens purement patriotique, en ce que nous sommes là finalement en train de parler d'un accord à intervenir entre le gouvernement congolais et les États-Unis d'Amérique sous le thème ressources naturelles contre sécurité. Je voudrais d'abord rappeler que ne fût-ce que les libellés du contrat à intervenir pose déjà problème. Normalement, échanger les ressources naturelles pour la sécurité. En ce que la sécurité d'un État est un domaine régalier de l'État. L'État est né pour accomplir cette mission-là. Dès lors que l'État n'y arrive plus ou l'État n'y pourvoit plus, à ce moment-là, on peut considérer que même l'État est en train de disparaître. Charles de Montesquieu, dans son ouvrage « L'esprit des lois », il nous dit que la sécurité d'un État, on ne peut pas la confier aux étrangers. Aujourd'hui, cher Marcel, vous rendrez compte que, au regard des mutations en cours en termes de sécurité mondiale aujourd'hui, chaque État du monde cherche comment à s'organiser à ce qui concerne la sécurité. Vous avez vu que depuis la Seconde Guerre mondiale, la sécurité de l'Union européenne dépendait des États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, l'Union européenne vient de voter un plan de 800 milliards de dollars pour avoir une sécurité européenne. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que si la RDC signe un accord de sécurité avec les États-Unis, sûrement ça impliquera achat d'armes ou alors transfert d'armes, ainsi de suite, et matériel militaire. Mais vous allez voir qu'on a des matériels militaires, mais pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il y ait, par exemple, le CUTUS qui doit être donné à Washington. Ça veut dire quoi? Si la RDC est attaquée, elle doit user les droits naturels de légitime défense reconnus à chaque État par l'article 50 de la Charte des Nations Unies, on doit demander l'autorisation aux USA. Pour attaquer les Rwandais ou riposter contre les Rwandais, on doit demander l'autorisation des USA. Mais également aussi,
cet accord-là, est-ce qu'on va s'assurer qu'il ne sera pas... Parce que pour moi, s'il est signé par le gouvernement congolais et ratifié par le Parlement congolais dans toute son entièreté en application de l'article 214 de la Constitution, il constituera une tutelle sécurité de la RDC sous les États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi pas aussi une hypothèque de la souveraineté de l'État congolais? Parce qu'aujourd'hui, l'État congolais accepte de partager son domaine régalien, l'un de ses domaines régaliers, à l'occurrence le domaine de la sécurité. Rassurez-vous, cher Marcel, vous avez vu aujourd'hui que le Niger vient de demander aux États-Unis de partir, le Burkina Faso clame sa souveraineté, vous avez vu également le Mali, et tous ces États africains aujourd'hui sont convaincus que réellement les domaines régaliers comme celui de la sécurité, on ne peut pas les partager. On peut toujours faire des contrats, par exemple, des partenariats sécuritaires qui peuvent concerner l'échange des informations militaires, les renseignements, mais dire que finalement il faudrait que ça soit par le truchement d'un accord carrément commercial où vous demandez aux États-Unis d'exploiter des minerais en RDC, en contrepartie, les États-Unis doivent nous fournir sécurité. Mais on est dans quel...
Voilà, voilà, Christian Cassissi, donc, moi, Christian, on a compris.
Je suis en train de citer.
Oui, Valérie, allez-y.
Je suis en train de citer pour dire que je crains que déjà cet accord va être un accord léonais, en ce que tous les accords précédents, que ce soit le contrat sino-congolais, que ce soit l'avenant 5 intervenu lors de la renégociation, aujourd'hui on se rend compte que la RDC est en train de perdre, tout simplement parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Voilà, merci Christian. Merci Christian depuis d'avoir appelé depuis Kampala, en Ouganda. Donc pour vous, on a compris, c'est plutôt des inquiétudes du fait que cet accord minier va se reposer sur des garanties sécuritaires. Voilà, notre invité va réagir par rapport à tout cela. Mais avant de revenir à notre invité, il y a également ses réactions sur la page Facebook par aux auditeurs que je m'en vais lire. C'est Jackson qui nous écrit depuis Goma. Cet accord peut être une bonne chose s'il est négocié dans l'intérêt du peuple congolais avec une transparence totale, un respect strict de la souveraineté nationale et des bénéfices tangibles pour le développement du pays. Sinon, il risque de devenir un accord de plus qui enrichit les multinationales et laisse la population dans la pauvreté. Et Carlos Munioka nous écrit depuis Luanda. Je suis parmi ceux qui saluent ces discussions en vue d'un accord entre les USA et notre pays pourvu qu'il nous profite réellement. Je fais confiance à l'équipe d'experts chargés de ce projet. Concernant ceux qui s'y opposent, j'ai envie de souligner que c'est une attitude tout à fait normale dans un état dit démocratique, surtout que parmi eux, il y en a qui sont foncièrement pessimistes et dont le pays n'arrêtera pas de fonctionner à cause d'eux. Voilà, ça c'est direction sur la page Facebook par aux auditeurs. Lemska Monia, vous avez suivi toutes ces réactions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, je crois que le premier intervenant a évoqué ce qu'il considère comme un troc. C'est comme si nous donnons les minerais aux États-Unis et ensuite les États-Unis viennent apporter le développement et la sécurité. Je pense peut-être qu'il faut qu'on explique un peu la mécanique, comment cette question fonctionne. Même, prenons le cas du contrat chinois. L'État ne dit pas, voilà, je prends telle concession minière, je vous donne, et vous venez développer. Il y a toujours les véhicules qui est mis en place. Pour le cas du contrat chinois, la GECAMINE, qui est l'entreprise minière publique congolaise, a signé avec un groupe d'entreprises chinoises qui sont spécialisées dans les minerais. Ils ont signé un accord de partenariat pour exploiter les gisements qui étaient identifiés. Et au besoin, ils ont créé une société qu'on appelle la SICOMINE aujourd'hui. Cette SICOMINE, c'est le seul instrument qui exploite des gisements qui sont identifiés dans lesquels nous trouvons, dans cette société dans laquelle nous trouvons, et la GECAMINE et les Chinois. Et on a partagé 67% pour les Chinois et 33% pour la GECAMINE. C'est la part de l'État, de la GECAMINE, donc, que l'État a récupéré pour dire les dividendes que la GECAMINE doit gagner dans ses partenariats. Maintenant, au lieu qu'on les touche en espèces ou que ces dividendes soient payés à la GECAMINE, on utilise ces montants pour financer quoi? Pour financer le développement des infrastructures. C'est là qu'il y a eu un autre contrat maintenant entre les entreprises spécialisées dans les cadres de construction comme les CREC et les Sinon Hydro que nous voyons en train de réaliser ces infrastructures. Même dans les cas présents, on parle de des États-Unis, mais ce n'est pas le gouvernement américain à qui on va remettre des concessions minières. Et nous avons le code minier qui est là. Donc, on va identifier certains gisements qui appartiennent sûrement aux entreprises du portefeuille de l'État congolais, qui vont entrer en partenariat avec des entreprises américaines qui vont exploiter. Maintenant, on espère que de cette exploitation, ces entreprises américaines vont construire des usines, vont améliorer des infrastructures qui permettent qu'on exploite. Peut-être ils vont assurer un développement autour de leur zone du projet. C'est ce flux d'argent qui va venir. On ne donne pas les minerais pour dire amener la sécurité, on ne donne pas les minerais pour dire amener 500 milliards. Cet argent va passer par les développements des entreprises qui pourraient être créées. On estime que on aura une quinzaine d'entreprises américaines qui pourraient venir, qui vont investir dans les usines et autres. Et les effets qui vont sortir de cette exploitation, ces effets vont être bénéfiques. Et comme c'est des capitaux américains, on estime que les Américains ne vont pas laisser que leurs entreprises qui vont investir des milliards constatent que leurs intérêts soient plutôt mis en danger par l'insécurité qui va régner. Donc cette présence va garantir la sécurité. C'est au fait ça les montages qui est
mis en route. Vous avez suivi...
L'auditeur parle de garantie sécuritaire, il a tout à fait raison, parce que les gens, peut-être, ils comprennent un peu autrement. Les États-Unis ne prennent pas l'engagement que nous venons sécuriser toute la RDC, où on ne dit pas au gouvernement congolais que non, votre sécurité, c'est nous qui vous l'amenons. Non! Les États-Unis, ils vont amener la sécurité dans cette partie-là, parce qu'il y aura la présence de leurs intérêts, et en voulant protéger leurs intérêts, ça va contribuer à une sécurité globale dans la zone. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pourquoi, vous voyez, on dit qu'il y aura des accords entre d'abord la RDC et le Rwanda, pour dire, écoutez, tous ces groupes armés qui viennent déstabiliser ces pays, parfois ils passent par vous, parfois on dit que c'est vous qui les appuyez. Écoutez, arrêtez ça, parce que nous sommes dans cette zone, nous développons, et ensemble, nous pouvons voir comment il faut arriver à le faire. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que non, on a toute la sécurité, c'est les États-Unis qui vont amener des armes, qui vont amener des drones. Ils ne viennent pas entrer en guerre ici. Ils veulent plutôt mettre en place des investissements qui peuvent ramener la paix, et l'exploitation va être une exploitation qui va bénéficier à la population. C'est ça le montage qui est là et qui est différent un peu de ce qui s'est fait avec les Chinois. Donc sinon, la sécurité de l'État, ça c'est l'affaire du gouvernement. C'est l'État congolais qui doit garantir la sécurité de ses populations. Mais là, on a trouvé un mécanisme qui s'est dit, est-ce que ce mécanisme, peut-être avec la présence des intérêts américains qui doivent être sécurisés, ça peut contribuer à une sécurité globale dans la zone.
Et vous avez suivi, il y a Marie Polawa qui a souhaité que dans cet accord, qu'il y ait également un aspect sur la traçabilité dans la chaîne de production et d'exportation de ces minéraux. Et cela sous-entend, il faut que la région soit sécurisée.
Effectivement, c'est pourquoi j'ai évoqué au début la chaîne des valeurs. Et c'est pourquoi ceux qui s'inquiètent du fait qu'on dit non, on est en train de donner une prime au Rwanda, parce que le Rwanda a été reconnu comme un pays qui agresse la RDC à travers les groupes armés. Pourquoi vous voulez que dans la chaîne des valeurs et de commercialisation de ces minéraux, que tout passe et que ça passe par le Rwanda? Bon, c'est comme si le Rwanda n'a pas cette partie, il n'y aura pas la sécurité. C'est comme si une partie de cette sécurité dépend du fait qu'il faut que le Rwanda se retrouve dans cette exploitation. Mais la traçabilité à laquelle on fait allusion, c'est celle-là. Parce que aujourd'hui, nous devons avoir des structures fortes, même si le code minier est là, qui vont contrôler que l'exploitation, donc le respect de l'environnement est là, qui va certifier que les quantités qui sortent, qui doivent traverser, les statistiques sont fiables. Est-ce qu'on ne va pas nous rouler en faisant des déclarations qui ne sont pas celles-là? C'est tous ces mécanismes de traçabilité qui montrent qu'il faudrait que les services publics qui sont affectés au contrôle environnemental, qui sont affectés au contrôle de statistiques de la production, puissent vraiment jouer leur rôle pour qu'on ne rentre pas dans cette corruption et après on va se rendre compte qu'on ne voit rien et la part notable profite plutôt à d'autres pays.
Alors on va revenir au standard avec Alain Moutiki qui nous appelle depuis Bukavu. Alain Moutiki, vous êtes en ligne depuis Bukavu, vous avez la parole.
Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Marcel, et bonjour à votre invité au studio.
On vous écoute, allez-y.
Nous, comme Congolais, nous avons toujours des doutes à émettre par rapport à plusieurs accords, parce que bien que c'est là, selon l'esprit d'accord, va rétablir la paix, priorité des priorités, surtout à l'est de la RDC. Nous émettons encore des doutes parce que ce sont encore des paroles marketing pour attirer la sympathie des paisibles citoyens. Avec d'autres accords, d'autres invités ont eu à le dire par rapport à l'accord avec la Chine, qui a été une très mauvaise expérience dans le mine de notre pays. Parce que cela, la Chine a facilité, a permis à ce que les politiciens puissent s'approprier tout, presque toutes les concessions minières. Et donc, il n'y a pas de concessions minières. Pourquoi un politicien se retrouve, il faut qu'il soit, qu'il ait des concessions minières. Et donc, nous émettons encore des doutes et nous voulions à ce que il y ait du sérieux dans cet accord. L'autre doute, c'est que que vient faire le Rwanda? C'est que nous voulons, je voulais demander à l'invité. Que vient faire le Rwanda pendant que on a tout fait pour plaire au Rwanda? Il y a des accords qu'on a fait avec le Rwanda, avec le minerai. Il y a des entreprises, il y a des qui ont été installées même au Rwanda pour faciliter cette paix. Mais malheureusement, la paix n'est pas revenue et le même Rwanda continue toujours à nous agresser jusqu'à présent. Et maintenant, nous, on est en train de nous demander est-ce que le Rwanda, que vient faire le Rwanda dans un accord entre la RDC et les États-Unis, pendant qu'on sait qu'au Rwanda, il n'y a pas de minerai. Est-ce que notre pays n'est pas encore émancipé pour qu'à chaque fois, lorsqu'il veut signer des accords, il faut qu'il y ait des Rwandais? Et pourquoi seulement le Rwanda? Pourquoi pas d'autres pays? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et donc, nous sommes en train de voir qu'il y a un complot qui est en train d'être fait et on veut distraire le peuple congolais, que nous sommes en train ici d'appeler à la vigilance, parce que c'est fort inconcevable qu'on puisse chanter à travers le monde, faire le tour du monde, dire que le Rwanda est un agresseur, est un criminel, et après quand il s'agit de nos ressources, quand il s'agit de nos ressources surtout minières, on veut encore impliquer le Rwanda. Moi je pense que le Parlement devrait se réunir pour prendre des décisions idoines, parce que tout ce qu'on est en train de faire, ce soit à la présidence, soit c'est le ministre la ministre des Affaires étrangères, sans même autant associer le Parlement qui, des droits, selon la Constitution, devrait être impliqué dans tout ce qui se fait, surtout en matière de minerais, en matière de sécurité de notre pays. Voilà mon point de vue par rapport à ce que, par rapport à la thématique aujourd'hui.
Voilà, merci Alain Moutiki. Depuis à Bukavu, cette réaction sur la page Facebook de Parole aux Auditeurs, c'est celle de Christophe Mafuta, qui est chercheur en relations internationales, risques internationaux. Il nous écrit depuis l'université Lyon 3 en France. Je trouve ce raccordement assez grossier entre la Corse, le minerai et la palais de la RDC aussi. Les développements des infrastructures apparaissent bien déjà dans les contrats chinois et nous voyons les résultats ces jours. Tant que la RDC n'aura pas assaini l'espace administratif de la corruption et de l'impunité, les contenus de cet accord, aussi excellent serait-il, restera un vœu pieux. Voilà, ça c'est Christophe Mafuta depuis la France. On va revenir au standard pour écouter Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani. Blaise Saïdi, vous avez la parole.
Oui, bonjour cher Marcel, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs de la radio Capi. Cher Marcel, cette thématique pose assez de soucis. Cette thématique qui divise la classe politique de la RDC, la population congolaise. Donc, cher Marcel, l'éventuel accord entre la RDC et les États-Unis suscite un large débat, tant au sein de la classe politique congolaise qu'auprès des organisations de la société civile. Cher Marcel, selon la législation congolaise, tout accord minier avec un partenaire étranger doit être conforme au code minier, nécessitant une approbation législative, interdisant les contrats d'exclusivité et exigeant la transparence et la consultation des parties prenantes, cher Marcel. Le respect de ces normes est essentiel pour garantir les ressources minières de la RDC, cher Marcel. Je dois aller un peu tout juste pour citer à quelques questions.
Oui.
Donc, cher Marcel, la RDC dispose d'un code minier adopté en 2002 et révisé en 2018, qui régit l'exploitation des ressources minières selon les codes des contrats miniers. Et ces codes doivent être approuvés par l'Assemblée nationale, cher Marcel. Aujourd'hui, nos gouvernants, tout ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que l'Assemblée nationale est saisie de cette situation? Puisque parmi mes prédécesseurs, il y a l'un qui a déjà évoqué cette question. Cher Marcel, je dois aller tout juste à poser quelques questions à l'invité. La première question, l'accord respecte-t-il les dispositions du Code minier congolais révisé en 2018? Ça, c'est la première question. La seconde, pour citer, les communautés locales ont-elles été consultées? Quels sont les droits et compensations, cher Marcel? Je pense que c'est ça, je me limite pour une occasion à d'autres.
Voilà, merci Blaise Saïdi. Depuis Kisangani, laisse Kamonia, je pense que c'est aussi l'occasion de faire un commentaire sur ce code minier qui a été revisité parce qu'il fallait revoir certaines clauses. Est-ce que vous pensez qu'on a un très bon code minier?
Ah oui, effectivement. Donc je crois que depuis la révision du code minier, la RDC commence à avoir plus de ressources et plus de moyens financiers qu'il ne l'avait avant, si on voit le code minier de 2002. Parce que aujourd'hui, on a élevé les taux de redevance minière. Et la redevance minière qui est payée, tout l'argent ne va pas seulement au pouvoir central. Il y a l'argent qui reste aux entités décentralisées, notamment les gouvernorats, les communautés, les localités qui sont au niveau de l'exploitation de ces matières. Aujourd'hui, si vous voyez les provinces comme Lualaba aujourd'hui, développer les infrastructures et tout ça, ça, ce sont les effets du code minier révisé. Je dirais même que ce code minier révisé a permis notamment la surfacturation, donc la facturation, la taxation des super profits qui n'étaient pas dans l'ancien code. C'est ce qui expliquerait aujourd'hui que vous voyez que si la DGI réalise d'énormes recettes, c'est parce que on arrive à taxer les super profits et que aujourd'hui les recettes au niveau de la DGI, si on dépasse les assignations, c'est à cause des effets bénéfiques de...
Mais c'est quoi la différence entre les profits et les super-profits pour que...
Bon, quand on parle de super-profits, lorsque les gens élaborent leur modèle minier, ils se disent que nous signons un contrat, un partenariat. On espère qu'une tonne de cuivre, par exemple, on va la vendre à 2000 dollars. Mais s'il se fait que quelques temps après, on n'est plus à ce niveau-là, les codes, donc la tonne se vend à 8000, donc ce que vous avez prévu dans votre modèle vous donne plus de profit que ce que vous avez envisagé avant, alors il y a une taxation qui est faite par rapport à tous ces super profits qui sont réalisés à cause de l'exploitation minière. Je dirais que la révision du code minier a permis quand même au gouvernement congolais aujourd'hui d'avoir suffisamment plus de moyens et d'accroître son budget. Alors, M. Saïd qui venait d'intervenir, il a posé deux questions importantes. Est-ce que l'accord minier respecte les codes miniers? Ce n'est pas l'accord qui doit respecter les codes miniers. C'est l'exploitation minière, les entreprises qui viendront pour exploiter les gisements miniers qu'on va leur accorder, ce sont ces entreprises-là qui doivent faire cette exploitation conformément aux dispositions permanentes pertinentes du code minier et du règlement minier. Et il y a toute cette question. C'est pourquoi celui qui est intervenu de l'étranger, c'est pas de la Belgique.
De Lyon,
de France.
De la France.
Il a évoqué un problème sérieux. Les codes peuvent être là, les lois peuvent être là. Est-ce que nous avons une administration publique compétente, capable d'arriver à veiller à ce que cela soit respecté? Donc, ceux qui viennent investir, surtout les entreprises qui investissent dans les secteurs miniers aujourd'hui, sont des entreprises qui sont cotées en bourse et ne peuvent pas faire des pratiques qui sont contraires pour ne pas être sanctionné au niveau des bourses où elles sont en train de vendre leur image et de vendre leur valeur. Maintenant, c'est à nous de mettre en place les moyens nécessaires, les dispositions nécessaires pour arriver à faire respecter ces codes. Donc, nous pouvons rassurer notre interlocuteur qu'effectivement, ces entreprises qui viendront doivent fonctionner en respectant les dispositions du code et du règlement minier, comme toute autre entreprise minière. Elles ne vont pas bénéficier d'un régime exceptionnel. Il n'y aura pas de régime exceptionnel parce que on ne permet pas qu'il y ait un régime hybride dans le cadre de l'exploitation minière aujourd'hui. Bon, il y a l'autre auditeur qui m'a posé la question de savoir qu'est vient faire le Rwanda dans cette question de l'accord minier. Est-ce que nous ne sommes pas émancipés, autonomes, indépendants pour traiter avec les États-Unis directement qu'en associant les Rwanda. Moi, je dirais que ça, c'est une question qui est politique et diplomatique. Est-ce que ceux qui estiment que pour faire la paix, c'est pourquoi on a dit qu'il y aura deux accords, un accord d'abord de paix qui est signé entre la RDC et les Rwanda, et ensuite, si ceux-là qui sont en train de négocier, comme j'ai dit, c'est des négociations qui sont politiques et diplomatiques, s'ils pensent que pour arriver à avoir cette paix, il faudrait que les Rwanda soient associés, bon, ça c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit que non, non. Et c'est une des inquiétudes que j'ai soulevées au début de l'émission. Pourquoi les chaînes des valeurs et la chaîne d'approvisionnement, les chaînes commerciales vont s'étendre jusqu'au Rwanda pour que les minéraux qui vont quitter la RDC entrent légitimement au Rwanda et que les Rwanda les exportent comme étant les minéraux qui lui appartiennent, donc avec les labels rwandais. Et ça, c'est une question importante. Maintenant, il appartient aux politiciens de regarder est-ce que c'est opportun. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cela? Et pour finir avec ça, hier, j'ai lu le matin que le président de l'Assemblée nationale, il a pu échanger avec les chefs de l'État et il a rassuré les députés que cet accord-là devra être examiné. Mais maintenant, c'est le moment de l'examen. Est-ce que c'est avant la signature ou après la signature? Parce que il faut que l'Assemblée nationale regarde toutes les facettes et puisse apporter les corrections pour qu'on arrive à avoir un accord qui soit quand même équilibré et qui puisse quand même garantir les uns et les autres.
Voilà, on va cette fois-ci écouter Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Martin, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je voudrais également faire constater aux nombreux auditeurs et à l'invité que cet accord minier qui sera signé entre les États-Unis et la RDC n'est pas le premier temps. Beaucoup de contrats qui ont été signés pour lesquels les Congolais lambda ne se sont pas respectés. Et qu'il faille qu'on puisse revisiter. Et même si on a revisité, nous l'avons jamais vu, un impact en termes de 50-60% sur le vécu quotidien ou le panier ménager de la ménageur. C'est le premier constat. Le deuxième constat également, c'est que aujourd'hui, le secteur minier est conquis et presque entre les mains des Chinois, en République du Congo. Pour nous qui vivons à Lubumbashi, nous pouvons également les affirmer. Quiconque sait également les constater. Mais comment la politique de la RDC, comment la RDC, l'État congolais, pourra également, entre guillemets, sortir du lot des Chinois pour s'installer ou se greffer à la coopération avec la coopération américaine également. Là où beaucoup de Congolais lambda ne comprennent pas, comment ça va se passer? D'une part, les mines détenues par les Chinois au niveau de la RDC, c'est à 70%. À 80% on peut dire, et d'autre part également les contrats qui seront signés entre la RDC et également les États-Unis également. Comment la RDC va s'en sortir? Je pense que l'invité pourrait également nous éclairer là-dessus, pour que nous comprenions véritablement comment ça va se passer entre temps. Est-ce qu'il y aura un divorce entre la Chine pour se gréver et signer un autre mariage avec les États-Unis et comment ça se passera? Ça, c'est la première question. La deuxième question également en termes d'analyse, c'est que, Marcel, est-ce que ces contrats seront examinés en amont ou bien en aval? Si ça sera examiné par symbolisme, ça c'est un raté. Je vais vous dire ça c'est un raté. Mais il faudrait soumettre, parce que c'est un accord exceptionnel, il faudrait les soumettre par le Parlement également, préalablement avant que toute signature soit posée en vue de son exécution. Et comme les réclament également les tests relatifs au secteur minier, mais aussi au traité internationaux également. Ça, c'est un autre constat que nous pouvons demander au gouvernement de déposer la copie de ces contrats en original, voire pour que ça soit examiné. Et c'est ainsi que nous interpellons les honorables députés nationaux pour qu'ils puissent examiner avec toutes les têtes bien faites, avec intérêt objectif, pour que les Congolais puissent se retrouver en termes des infrastructures, Marcel. Je voudrais également proposer qu'à l'issue des contrats, il faut que nous restions avec des infrastructures. Il faudrait privilégier des autoroutes, par exemple, entre Kasai-Katanga, Katanga-Matadi et autres, que nous sentions véritablement que nous avons signé des contrats avec les États-Unis et que ces contrats est gagnant-gagnant. Le chef de l'État a toujours vanté que les gagnants, les contrats seront gagnant-gagnant, mais dans la pratique, Marcel, nous souffrons pour constater que ces contrats est gagnant-gagnant. Moi, je ne voudrais pas parler des considérations d'association avec les Rwanda. Ça, c'est un aspect purement diplomatique et symbolique. Moi, je voudrais parler que la RDC soit vigilante en termes de la signature de ces contrats pour que les routes soient construites également. Pourquoi pas ne pas exiger également dans les contrats avec les États-Unis pour qu'une industrie militaire soit installée en République démocratique du Congo, pour que nous ayons la capacité de pouvoir ne plus que fabriquer les armes, ne plus que fabriquer les matériels relatifs à l'armement, relatifs à la sécurité également, dont notamment renforcer la PIDEX, dont notamment la construction d'une industrie militaire qui pourra fabriquer également du zénith et autres des armes. Voilà un peu c'est à quoi je peux également m'atteler voilà, rapidement à ce niveau du débat, tout en interpellant les gouvernements d'être un peu plus sérieux et plus productifs en termes d'exigence également et permettre à ce que les infrastructures soient abouties.
Voilà, merci Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. On va revenir à notre invité, ça sera aussi l'occasion pour notre invité de conclure. Vous avez suivi, il est en train de parler de certains repositionnements américains face à la Chine. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de réfléchir comme ça?
Oui, bon, je pense que c'est une question qu'on a évoquée en début d'émission. Le secteur minier congolais a été libéralisé. Il est libéralisé aujourd'hui. Et vous trouvez des Chinois, vous trouvez des Australiens, vous trouvez des Canadiens, vous trouvez les Américains. La plupart des pays étrangers sont venus investir en RDC. Seulement, comme on dit, la nature a horreur du vide. Peut-être pendant que certains invités, les Chinois ont suffisamment avancé. S'il y a une seule entreprise où l'État est effectivement engagé avec les Chinois dans le cadre du deal minier, c'est la Sicomine. Mais ailleurs, là, ça a été des deals qui ont été conclus comme tout autre partenaire qui peut venir. TFM, au départ, c'était détenu par une entreprise américaine qui a cédé. Malheureusement, elle a cédé. Ce sont les Chinois qui ont racheté. Mais aujourd'hui, ce que nous évitons, c'est nous pensons que pour éviter la collision, comme je l'ai dit, on ne va pas dire on va arracher des concessions minières et des permis miniers, des contrats miniers aux Chinois pour les donner aux Américains. Ce n'est pas ça, je crois, la considération. On estime que nous avons un vaste domaine minier géologique et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et les Américains qui étaient peut-être pas assez nombreux, on leur dit, venez, il y a de la place et on peut vous trouver des concessions minières, on peut vous trouver et vous pouvez exploiter aux côtés de la Chine. Quand bien même on sait que maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment une guerre entre ces deux grandes superpuissances au niveau mondial. Il y a un risque que nous devons arriver à bien gérer pour éviter cette collision. Je ne pense pas que le gouvernement est là pour arracher, sinon ça va être une guerre qui va venir ici dans ces pays. Et là, il faudrait que le gouvernement joue les choses comme il se doit. Il a évoqué le problème des infrastructures.
Il dit qu'il y a votre priorité.
Oui. Mais en dehors de ça, parce que vous connaissez que les minerais s'épuisent. Le code minier a prévu la pré-mine. On a créé le fonds minier qui est aujourd'hui alimenté par une partie d'avance minière pour permettre le développement des infrastructures. Maintenant, le gouvernement peut aussi rendre compte aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on a déjà accumulé au niveau du fonds minier et qu'est-ce qui est prévu comme infrastructure à construire pour garantir le développement du pays. Donc, pour le reste, je pense que lorsqu'on aura l'accord lui-même, on verra les contenus de l'accord. Peut-être à ce moment-là, on aura une autre émission où on va maintenant discuter. Parce que là, nous sommes en train de réfléchir sur des considérations, des garanties qu'on a. On ne connaît pas encore les termes réels de l'accord. Et c'est un peu difficile. Et je pense que le Parlement devra les voir préalablement avant qu'il ne soit signé.
Voilà. Merci beaucoup, Lems Kamonia. Je rappelle que vous êtes expert en économie et finance. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci Marcel, merci de l'invitation.
Fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui est à la mise en onde, à Gloria Lutola qui l'a réalisé et coordonné, à Nelson Nyombe et Paul Badianyama qui était là pour l'équipe multimédia au micro. C'était Marcel Ngomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suite de programme sur la fréquence de la paix. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir à toutes et à tous.